Bonjour chers amis de la Voix de la République islamique d'Iran, je propose le focus d'aujourd'hui, émission assez spéciale, en l'absence de mon collègue. Nous allons vous parler de trois pays, Venezuela, Syrie et France. On commence par un article consacré à la situation au Venezuela. L'article traite une photo de Paris Match qui résume ce que la plupart des citoyens savent du Venezuela. C'est une photo effectivement qui met en scène des scènes de guerre entre les manifestants et les policiers. Une croyance entretenue jour après jour par la nouvelle église que sont les transnationales de l'information. Le vieux rêve industriel est devenu réalité, que la population du monde pense la même chose au moment voulu. Or, et poursuit l'article, ces 80 jours ne sont pas de simples manifestations contre le gouvernement Maduro. Ce sont 80 jours de manifestations d'une droite dont le secteur pacifique en perte de vitesse fait déborder quotidiennement par une insurrection entraînée, financée et armée, par qui rêve de reprendre le contrôle politique d'un continent et pas seulement des réserves pétrolières du pays. Localement, l'objectif est de stopper la campagne pour élire une assemblée constituante et de réunir les conditions d'un coup d'État. Fait significatif, cette insurrection se déploie à partir des quartiers riches où a été prise la photo des municipalités de droite de la frontière avec la Colombie en étroite alliance avec le paramilitarisme d'Alvaro Uribe. La majorité de la population vénézuélienne, c'est 95% de citoyens et citoyennes qui habitent les quartiers populaires, n'y participent pas et rejettent la violence. La majorité des victimes ne sont pas des victimes de gouvernement, comme le disent les grands médias, mais les victimes de ces manifestants pacifiques, entre guillemets, que votre télévision ou votre radio ou votre journal transforment en population du Venezuela. Les membres de forces de l'ordre qui ont désobéi aux ordres de ne pas user d'armes à feu et sont responsables de blessures ou d'assassinats ont été aussitôt arrêtés et jugés. Trois scrutins nationaux sont prévus d'ici 2018, sans assurance de victoire pour le chavisme qui a d'ailleurs perdu les législatives de décembre 2015. Dans ce pays qui a mis en place une démocratie participative, invisibilisé systématiquement depuis 18 ans, la majorité des médias écrits, radio, web et télévisés s'opposent au gouvernement bolivarien. Selon l'observateur d'élections Jimmy Carter, le Venezuela possède le meilleur système électoral du monde. Conclusion, le fait que l'opinion occidentale dénonçait Pinochet en 1993, mais soutienne aujourd'hui ses fils au Venezuela, confirme que nous sommes gouvernés par les grands médias. Ce pouvoir écrasant fait qu'il est très difficile pour la gauche éloignée de l'Amérique latine de prendre parti. La voici contrainte de se taire pour protéger sa réputation et de justifier son nini par les erreurs de gestion ou les cas de corruption des bolivariens manifestes mais dont la solution dépend des Vénézuéliens. Elle rejoint ainsi passivement l'étau international. Maurice Lemoine disait « On a connu le même phénomène de lâcheté collective d'intellectuels de gauche autoproclamés à la fin des années 80, lorsque les contre-révolutionnaires, la Contra, l'administration Reagan et les difficultés accablaient le Nicaragua. La solution passe par démocratiser en profondeur la propriété des médias tout en créant de nouveaux paradigmes éloignés de l'information marchandise à travers des médias non commerciaux alimenté directement par les mouvements sociaux, reliant les pays du Sud, en partie Cuba. Alors, le second article que je vous propose dans le cadre de cette émission spéciale de Focus est consacré à la Syrie. Comparé à un matin calme, le paysage s'éclaircit peu à peu en Syrie. Partout à l'offensive, l'armée nationale a reconquis des milliers de kilomètres carrés de territoire à l'est d'Alep, de Homs et de Damas. Elle s'apprête à reprendre le contrôle intégral des frontières syro-jordaniennes et syro-irakiennes, traditionnelles voies de transit des mercenaires venus dévaster le berceau de la civilisation pour une poignée de pétrodollars. En restaurant la souveraineté de l'État sur le sol national, cette courageuse armée de conscrits inflige un camouflet à tous ceux qui rêvaient de détruire cet État récalcitrant, à tous ceux qui voulaient le mettre en charpie parce qu'ils osaient déjouer leurs plans néocoloniaux. Victorieuse sur le plan militaire depuis la libération d'Alep, la Syrie souveraine l'emporte aussi sur le plan politique. Le temps paraît lointain où le monde diplomatique pouvait prédire, sans craindre le ridicule, l'exil doré de la famille Assad quelque part en Sibérie. Ses adversaires, le président syrien les a vus défiler, qui salmodiaient les mêmes stupidités sur un pays dont il ignorait le tout. En croire les Occidentaux, le départ de Bachar el-Assad devait être un préalable à la solution de la crise. En réalité, c'était tout le contraire. La résistance de l'État syrien, dont le président est la clé de voûte, exigeait son maintien. Là où tant d'autres auraient pris la poudre d'escampette, le chef est resté à son poste et il a bien fait. Fervent admirateur d'Al-Qaïda, Laurent Fabius, ex-ministre français des Affaires étrangères, estimait que le chef de l'État syrien ne méritait pas d'être sur Terre. Mauvaise pioche, car si M. Fabius cultive son éthylisme mondain au Conseil constitutionnel, Assad, lui, est toujours aux commandes à Damas. Son armée élimine la nébuleuse de groupes sectaires dont l'ancien ministre espérait le triomphe, et le peuple syrien goûte l'espoir renaissant d'une issue à la guerre. Ce qui est frappant avec les dirigeants occidentaux, c'est leur tendance à parler trop vite. Pendant 6 ans, leur presse, aux ordres répétés comme un mantra, l'effondrement imminent du régime syrien. Heureusement pour les journalistes, ils ne sont pas payés au résultat. Pour comprendre les raisons de cette résistance à une offensive internationale sans précédent, il suffisait de consulter des sources fiables et d'exercer son jugement critique. Les officines de propagande avaient beau prétendre qu'un peuple unanime se dressait contre le tyran, on pouvait voir sur Al-Mayadin, en mars et octobre 2011, de gigantesques rassemblements populaires en faveur du gouvernement et des réformes, clamant sa fidélité à l'État nationaliste laïque et son rejet de la charia wahhabite, la foule inondait les rues de Damas, Alep, Tartous et ailleurs. Mais les médias occidentaux préféraient braquer leurs caméras vers des attroupements de barbus en les faisant passer par un soulèvement populaire. Des faits majeurs, indispensables à l'intelligence des événements, ne firent donc l'objet d'aucune narration, tandis qu'on nous proposait une narration des faits qui consistait à les fabriquer pour les besoins de la cause. On ne peut clôturer cette édition spéciale de Focus sans parler de la France. La France dont Jacques Sapir évoque l'économie et le système des finances. La presse commence enfin à s'inquiéter de la crise bancaire que l'on connaît en Espagne et en Italie. Cela montre l'importance d'une crise qui a été pourtant niée avec la dernière énergie jusqu'à ces derniers jours. Ceci devrait nous interroger sur la matière dont les grands médias d'information rendent compte des problèmes au sein de l'Union européenne. Et cette interrogation est d'autant plus importante que ces mêmes médias nous ont présenté une image idyllique et fort éloignée de la réalité du premier sommet européen auquel Macron a participé. La réalité qui se dégage d'un examen des faits montre qu'il y a un lien très net entre la crise des banques en Italie et en Espagne et le blocage structurel de l'Union européenne, blocage auquel Emmanuel Macron s'est heurté de plein fouet jeudi et vendredi dernier. Cette situation pose un problème existentiel pour l'Union européenne. Mais qu'a dit, qu'a fait Macron à Bruxelles ? Emmanuel Macron a développé un discours qui cherche à présenter comme compatible des mesures minimales de protection dans le cadre de l'UE et une alliance avec l'Allemagne visant à faire progresser l'UE sur le chemin du fédéralisme. Dans la logique de ce discours, c'est en étant associés que la France et l'Allemagne pourront convaincre leurs partenaires de mettre en œuvre des mesures de protection concernant les travailleurs détachés ou les investissements que la France réclame. Ce discours part du principe qu'un intérêt général théorique peut être défini avant que ne s'engage le moindre débat et que cet intérêt peut s'imposer par la seule force de sa simple logique. Et le tort de poursuivre, Emmanuel Macron s'est heurté de plein fouet à la réalité. Celle-ci est d'une part que l'UE est aujourd'hui dans un état de paralysie avancée et que d'autre part, cet état de paralysie correspond à ce qui intéresse l'Allemagne et cette dernière ne fera rien pour s'y opposer ou pour le changer. Cette paralysie de l'UE implique le maintien d'un statu quo qui est hautement favorable à l'Allemagne. Elle lui garantit que rien ne viendra combattre la politique mercantiliste qu'elle met en œuvre à l'intérieur de l'UE en se fournissant produits et en hommes au moindre coût et que l'UE ne se constituera nullement une autorité capable de contester la politique internationale de l'Allemagne. Elle est gagnante sur les deux tableaux et l'erreur fondamentale de Macron a été et reste d'ignorer cet état des choses. Bref, M. Jacques Sapir finit son article. On mesure ici l'erreur fondamentale que commet Emmanuel Macron en cherchant a priori un accord à tout prix avec l'Allemagne. C'est cette erreur qui explique l'échec qu'il a subi lors du Conseil européen des 22-23 juin et ne pouvait en être qu'ainsi. La question du levier politique qui pourrait être mobilisé par la France pour faire avancer ses intérêts se pose alors. Son levier ne peut être qu'une crise imposante, une autre logique que celle inscrite dans les traités. Mais cette crise contient en elle la possibilité d'une rupture de l'Union européenne. Cette possibilité doit être acceptée comme telle, sinon on se condamne d'emblée à l'immobilisme.